Bonjour à tous et bienvenue dans En coulisses, le rendez-vous où nous recevons les maestros de la franchise. Vous êtes prêts à explorer les secrets des franchisés et franchiseurs à succès ? Décrypter les tendances émergentes avec les experts de ce modèle d'entrepreneuriat bien particulier. Préparez-vous pour de l'inspiration, des conseils précieux et des histoires et parcours captivants. Que vous soyez curieux, novice ou vétéran de la franchise, ce rendez-vous est fait pour vous. Alors, ajustez vos écouteurs, réglez le volume et c'est parti pour une plongée fascinante dans ce marché en constante évolution. Aujourd'hui, je reçois Tristan Quélin, cofondateur et président de Quiz Room, un concept inspiré des jeux télévisés qui propose des salles de quiz immersives et Alexis de Galambert de la fabrique Cookie, qui démarre tout juste son développement en franchise après avoir testé son concept sur 13 magasins pilotes. Pour un jeune réseau, chaque pas compte pour attirer les premiers franchisés. Dans cet épisode, Tristan et Alexis vont nous expliquer leur stratégie pour faire valoir leur proposition de valeur et les défis auxquels ils ont été confrontés pour convaincre les premiers franchisés de les rejoindre. Alors bonjour à tous les deux, je vais me tourner vers Alexis et lui demander comment vous avez interpellé vos premiers candidats à la franchise.
Alors étant très jeune franchiseur, au début j'ai un peu tâtonné, je suis parti un peu dans tous les sens pour trouver mes premiers candidats à la franchise. Je me suis tout de suite dit que j'allais faire le salon de la franchise, qui me paraissait être déjà un endroit où être quand on voulait se lancer, parce que ça devrait me permettre d'acquérir pas mal de leads. Je me suis abonné à l'Observatoire de la franchise. Évidemment, j'ai refait mon site internet, j'ai fait de la com interne, en parlant sur LinkedIn. J'ai fait un peu de tout. Et étonnamment, ça a bien marché. Y a des réseaux d'acquisition qui ont moins bien marché que d'autres que j'ai arrêté du coup, entre-temps. Donc je continue comme ça.
Et vous avez reçu du coup beaucoup de candidatures.
Oui, beaucoup. Alors, c'est pas moi qui les traite en interne. On est un jeune réseau de franchiseurs, j'ai pas voulu embaucher tout de suite quelqu'un pour gérer la commercialisation de mes franchisés. Donc je travaille avec Progressium, qui s'occupe de toute cette partie-là pour moi. Et ils gèrent tous les flux rentrants, ils font les premiers rendez-vous, et si les rendez-vous sont concluants, je les rencontre ensuite. Et en gros, en termes de candidature, sans exagérer, on en avait de l'ordre de 3 ou 4 par jour, donc c'est beaucoup. Tout confondu, hein, mais c'est pas mal. Et alors tous n'étaient pas qualifiés, évidemment, mais globalement avec en plus des candidatures assez qualifiées. On n'a évidemment pas transformé tout le monde, hein. Vous en doutez, puisqu'on en a ouvert pour le moment que deux, mais il y en a pas mal dans les tuyaux.
Et quels atouts vous avez mis en avant pour séduire et convertir justement ces premiers franchisés ? Car en tant que jeune réseau, même si vous avez déjà pu faire vos preuves avec un concept qui est né il y a 12 ans, et vous avez aussi réalisé des tests grandeur nature sur 13 unités pilotes, la fabrique Cookie, c'est tout de même, je le rappelle, une PME de 105 salariés qui réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros.
C'est vrai qu'on est un très jeune réseau de franchiseurs, mais on n'est pas jeune pour autant, on est une petite PME. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est encore petit, mais c'est quand même relativement important d'un point de vue solidité financière. Du coup, nos process internes sont relativement calés. On a certes 13 boutiques aujourd'hui en propre, en succursale, mais en fait, j'ai pas arrêté de me planter, moi, en 12 ans, donc j'en ai ouvert beaucoup plus que ça, et j'en ai fermé, évidemment, beaucoup. Donc en fait, c'est toute cette expérience-là que je mets au service de mes candidats à la franchise, et je pense que c'est un peu ce qui séduit nos candidats, c'est qu'on, certes, on est jeune franchiseur, mais en fait, on est moins jeune entreprise. Donc on sait que notre concept fonctionne, on sait comment, on sait où, on connaît les bons ratios, on connaît les flux nécessaires, et globalement, il ne faut pas être trop présomptueux, parce qu'évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais j'en vois pas mes candidats à la franchise au casse-pipe. Et c'est un peu l'avantage, c'est que comme on est un jeune réseau de franchise, il y a encore beaucoup d'opportunités à saisir avec des beaux emplacements, des belles villes où il n'y a personne, sur un concept qui est relativement mature. Voilà, je pense que c'est ça ce qui séduit. Aussi, ce qui séduit, c'est qu'on est un concept assez simple, on est monoproduit.
Vous êtes finalement un jeune franchiseur, mais pas un jeune réseau.
Exactement. C'est exactement ça. C'est très bien résumé. On a un jeune franchiseur, mais pas un jeune réseau de franchiseurs, puisque nos boutiques ont, pour certaines d'entre elles, presque 10 ans. Donc c'est quand même assez mature.
Mais ça, c'est important parce que je pense qu'il y a pas mal de franchisés qui sont sensibles au fait que tu exploites, toi, en succursale, que tu aies cette expérience. Et je pense que c'est ultra rassurant parce que quand tu te lances et que tu as à peine une boutique derrière toi, je pense que tu as plein de gens qui peuvent se dire déjà que la boutique n'est pas forcément... Enfin, que l'expérience que tu vas avoir sur cette boutique n'est pas forcément applicable à leur cas. Alors que toi, tu as quand même... t'en as 12 et tu as quand même essuyé les plâtres sur des tests, etc. Et donc, bon, j'imagine que ça participe du succès de ton lancement de réseau.
Je pense que tu as raison. En tout cas, ça rassure. Et puis surtout, souvent la question de pourquoi tu as mis autant de temps à te lancer en franchise tombe. Mmh. Et je suis assez honnête avec eux, c'est qu'au début, je voulais tout faire moi-même. J'avais aucune envie de partager la marge avec un candidat à la franchise, avec un franchisé. Et en fait, l'expérience d'ouvrir des boutiques en province ou à l'étranger, ce que j'ai fait, j'ai ouvert une boutique au Luxembourg et une à Lyon, m'ont prouvé que humainement, c'était très compliqué de gérer une équipe à distance et que voilà, donc mon développement national devait passer par la franchise, quoi. Je ne pouvais pas tout faire tout seul, exactement.
Alors, l'enseigne Quizroom a entamé son développement en franchise en 2021 et ça a été un succès.
Exactement. Bah, ouais. En fait, c'est vrai que la particularité qu'on a eue, c'est que nous, on a lancé notre premier centre 6 mois avant que le Covid ne vienne fermer tous les établissements recevant du public en France. Et ces 6 mois nous ont quand même suffi pour que certains opérateurs de loisirs existants repèrent notre concept et aient envie de l'implanter chez eux. Donc c'est vrai qu'on n'a pas démarché, mais quand on a annoncé qu'on lançait la franchise, on a tout de suite ouvert cette franchise avec des opérateurs existants. Voilà, donc c'est vrai que ça nous a aidé un petit peu à amorcer la pompe. Et par la suite, on a structuré la façon dont on commercialisait notre réseau, dont on faisait l'acquisition de nos franchisés, quoi.
Donc vous, les premiers franchisés ont été séduits par le concept, mais comment vous avez fait pour séduire les suivants ?
Le produit est toujours resté au cœur, ça c'est très important quand même de le mentionner, il l'est encore aujourd'hui, voilà, les gens avant tout sont séduits par le concept et pour beaucoup ils l'ont testé avant de nous appeler. Après la deuxième raison c'est l'accompagnement, ça je pense que c'est un tronc commun à pas mal de réseaux, mais les franchisés recherchent à être accompagnés. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles ils acceptent de payer des redevances, c'est qu'on va les accompagner. Je pense que l'ambition qu'on a autour du produit, elle est très importante aussi, puisqu'on a des concurrents qui ont lancé juste cette activité, mais qui n'ont pas forcément d'ambition de développement de catalogue. Alors que nous, aujourd'hui, Quizroom, c'est des quiz, mais c'est aussi des blind tests, c'est tout un tas de quiz thématiques et de blind tests thématiques aussi. Et on a pour projet de lancer des nouveaux jeux à chaque fois qui peuvent être joués dans cette même salle Quizroom. Et donc ça offre des belles opportunités en termes d'augmentation de panier moyen, de renouvellement de clientèle. Donc ça, je pense qu'on a beaucoup de franchisés qui ont acheté cette vision, en fait, sur le développement du produit. Après, sur la marque aussi, c'était important, parce que nous, dès le départ, on a voulu faire une marque référente sur cette activité-là, qui était une nouvelle catégorie de loisirs à l'époque, à côté des escape games, des laser games, etc. Et cette catégorie de loisirs, on a voulu en faire un acteur référent, et on est les seuls aujourd'hui sur le marché à avoir une ambition de développement de marque, puisque nos concurrents, ils vendent leur technologie, mais ils s'en fichent un peu de développer leur marque. Ce qui leur importe, c'est que leur concept existe dans le plus d'endroits possible. Mais nous, on a vraiment la volonté d'avoir une marque référente qui est connue, qui a une belle image, etc. Donc ça a plu. Et puis je dirais que la dernière chose, c'est peut-être l'effet réseau. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que Quizroom aujourd'hui est capable, grâce à son réseau, de pérenniser l'activité de chacun de ses franchisés. Voilà, et ça fait quand même pas mal écho pour séduire des candidats.
Et du coup, de par ce développement rapide, vous n'aviez pas défini de stratégie de recrutement ou de profil de candidat ?
Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'au début, je ne sais pas si Alexis, tu seras d'accord avec ça, mais au début, on prend les premiers franchisés qui se présentent et on est très content puisque l'objectif est de développer son réseau et d'acquérir une légitimité. Et puis par la suite, les critères se précisent. On sait qui sont les bons profils, on sait quels sont les profils à éviter. Après, non, nous, on valorise des candidats qui sont polyvalents et qui ont une belle capacité à apprendre parce que, disons que notre franchisé type, il est souvent en reconversion. Et finalement, on se fiche un petit peu de savoir ce qu'il a fait avant. En revanche, on essaie de voir s'ils sont polyvalents, s'ils vont apprendre rapidement ce qu'on leur explique, s'ils sont capables d'être proactifs, s'ils adhèrent à nos valeurs, évidemment. Voilà, ça, c'est le plus important. Et je rajouterai un petit truc, mais qui est spécifique au loisir, c'est que comme il y a beaucoup de concepts qui sont pas vraiment des franchises, mais qui sont plutôt des licences, et où, du coup, la notion de redevance est vue un petit peu différemment, bah, nous, on s'assure que les gens ne viennent pas que pour le concept, mais qu'ils viennent vraiment pour le réseau de franchise et qui sont prêts à accepter, à payer des redevances et qui savent ce qu'il y a en face. Et que c'est, voilà, parce que on a des gens on a beaucoup de gens qui candidatent et qui sont pas très, qui se sentent pas capables en fait de faire un concurrent de Quizroom et qui du coup par défaut viennent nous voir en disant bah, je vais exploiter ce concept. Mais ça c'est pas une raison suffisante pour nous. Il faut qu'ils adhèrent au concept de la franchise, d'avoir un réseau et d'être proactif dans le développement de ce réseau, dans l'implication dans ce réseau-là.
Alexis, je crois que dans le recrutement, en tout cas c'est ce que vous m'aviez dit, vous fonctionnez plutôt au feeling. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette stratégie ?
Oui, alors c'est vrai que Tristan l'a bien résumé. Moi, comme je suis un jeune franchiseur, je reçois... Il y a le premier filtre qui est organisé par Progressium, qui s'assure déjà que ça... intellectuellement, a priori, ça peut coller avec moi, qu'ils ont bien les ressources financières, qu'ils savent ce que ça veut dire, qui valident un peu le B.A.B.A. de la franchise. Ensuite, je les rencontre. Et là, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas de critères très objectifs sur je veux que ce soit des primos ou au contraire qu'ils aient déjà des concepts en franchise, je veux que ce soit des reconversions. Enfin, aujourd'hui, ces critères-là, pour la Fabrique Cookie, je les prends pas en compte. Mon concept numéro un, le critère presque unique que je prends en compte, c'est le fait qu'on s'entende bien, que la personne en face de moi soit sympa. Et en fait, tu l'as dit, hein, Tristan, c'est qu'on partage les mêmes valeurs de transparence, de bienveillance, de dynamisme, de simplicité. Je veux que les gens comprennent la marque, qu'ils comprennent le principe de la franchise et surtout que ce soient des gens sympas et qui partagent mes valeurs.
Ça, c'est sûr que c'est la clé parce que... avoir des gens cool, en fait, c'est d'autant plus important qu'on les a pendant, je sais pas quelle est la durée de tes contrats, mais nous, c'est 5 ans ou 6, 5 ou 6 ans, souvent renouvelables. Et en fait, si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien pendant 5 ou 6 ans. Enfin, on peut pas revenir en arrière. Et c'est beaucoup plus engageant que d'engager un salarié, parce qu'un salarié avec qui ça se passe pas bien dans un sens ou dans un autre, à un moment, tu peux dire, ça m'intéresse plus, je vais faire autre chose. Mais un franchisé qui a investi massivement et qui s'implique à 100% dans le projet, il va être là pendant 5 ans. Donc c'est vrai que c'est quand même important. Et je voulais juste rebondir sur un petit truc aussi que je trouve intéressant, c'est la notion d'investisseur ou de franchisé opérationnel. Nous, on a un peu les deux. Et en fait, au début, on préfère avoir des opérationnels, forcément, parce qu'on se disait que la raison d'être de la franchise, c'était d'avoir quelqu'un de très motivé qui soit à la tête de son bateau. Mais en réalité, on se rend compte que de temps en temps, on a des investisseurs et que ça peut aussi très bien fonctionner. Voilà, il faut bien les choisir. Il faut choisir des gens qui, peut-être, si c'est des investisseurs qui peut-être ont déjà des expériences dans le retail, ça peut... Voilà, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Et ça peut fonctionner très bien avec des responsables de points de vente qui sont très bons et qui sont salariés, mais qui vont être aussi performants que des franchisés. Voilà.
Et vous avez depuis, j'imagine, Tristan, défini un profilage type des candidats à la franchise ?
Oui, c'est un petit peu ce que je disais avant. Des gens sympas, plutôt jeunes, qui comprennent le digital, qui ont une affinité avec le concept, qui vont s'impliquer, qui a priori comprennent notre univers de marque. On revient à ça. Ça peut paraître assez simple, mais en fait, quand on se lance, on est un peu aveuglé souvent par des candidatures qui viennent, et je pense qu'on peut très vite un peu s'auto-convaincre qu'un candidat est bon parce qu'il a le mérite d'être là, et ça c'est un gros risque. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de confronter un petit peu les avis, d'avoir au sein de la boîte plusieurs validations, et puis surtout se dire que c'est pas grave en fait si un franchisé qui s'intéresse à une zone qui a beaucoup de potentiel va finir par ne pas s'engager avec nous. Ce sera probablement un mal pour un bien, et cette zone qu'on va pas pouvoir tout de suite avec un candidat qu'on pense ne pas être le bon, on la pourvoira plus tard avec quelqu'un de meilleur. Donc dans certains cas, il faut savoir être patient.
Et est-ce que vous recherchez les mêmes profils qu'au début ? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le profilage des candidats ?
C'est vrai qu'au début, on co-construit, d'autant plus dans un réseau comme le nôtre, où on s'est lancé en franchise de façon complètement prématurée, puisque, comme vous le disiez, on s'est lancé en franchise au bout de 9 mois. Et on a eu nos premières demandes au bout de 15 jours d'ouverture. Donc c'est complètement différent de toi, Alexis, pour le coup. Nous, oui, on a un peu co-construit le concept. Et c'est vrai que nos premiers franchisés, ils ont accepté que tout soit pas impeccable au départ. Mais je pense que dans leur mentalité, ça a joué aussi. C'est-à-dire que tous les franchisés qu'on a aujourd'hui n'auraient pas candidaté au tout début. C'est vrai que oui, alors ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un choix mutuel, ça c'est hyper important. La première démarche, c'est le franchisé qui l'a fait, donc a priori lui, il est intéressé. Il y a pas mal de candidats en fait qui se rendent pas compte de ça, et qui pensent que à partir du moment où ils candidatent, bah, nous en fait notre intérêt c'est de les avoir, parce que plus on a de franchisés, mieux on se porte, et certains se trompent là-dessus. Et c'est vrai que quand on perçoit que eux ne sont pas dans la séduction, et qu'ils n'essayent pas de nous faire comprendre que ça va bien se passer avec eux, bah on se dit que plus tard, on va peut-être avoir du mal à les faire rentrer dans notre stratégie, à les embarquer dans nos projets. Voilà, il faut qu'il y ait un échange. L'échange, c'est vraiment la base de la relation franchiseur-franchisé pendant toute la durée du contrat. Donc si ce n'est pas le cas dès le départ, ça, c'est sûr que ça pose problème. Et après, alors nous c'est vrai que toi je pense que Alexis t'as une expérience différente, donc ça va être intéressant de comparer. Mais en fait nous quand ils nous contactent, généralement en fait on est les seuls sur ce créneau là. Les gens sont intéressés par Quizroom, et donc s'ils nous contactent, c'est qu'ils veulent vraiment faire ça. Il est rare que finalement ils décident de faire autre chose. Je pense que dans l'industrie agroalimentaire, c'est vachement plus concurrentiel. Donc je serais pas étonné qu'il y ait plein de candidats qui sont des bons candidats et qui pour autant candidatent à plusieurs réseaux. Donc effectivement tu as une notion de sélection qui est hyper importante, parce que voilà, faut gérer cette concurrence quoi.
C'est clair, j'ai plein d'exemples où ils vont voir tous les faiseurs de cookies qui se lancent en franchise avant de me voir, ou en même temps, donc je suis clairement en concurrence avec eux.
Mais c'est du cookie, t'en as pas qui veulent faire du poké ou du burger?
Si aussi, mais moins quand même. Il y en a beaucoup, enfin.
C'est le modèle opérationnel qui séduit.
C'est le modèle opérationnel, c'est la marque, c'est la qualité du produit, c'est l'histoire, c'est les chiffres avancés, hein, le chiffre d'affaires, la marge. Il y a un ensemble qui séduit, mais oui, j'ai un exemple, enfin j'en ai plein, mais notamment un qui était un candidat de La Réunion, qui venait une semaine à Paris voir tous les concepts de cookies et pour implanter le concept. Et clairement, quand, et je le savais, il était ouvert.
Oui, il l'a dit.
Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec X, avec Y et demain avec toi. Ok, bon. Et donc là, clairement, je suis dans une démarche moi de super séduction avec ce candidat-là. Alors qu'en fait, je pense que t'as complètement raison. Il l'a aussi, mais sans le savoir. C'est-à-dire que si il a pas les mêmes valeurs que nous et qu'il va pas avoir la même gestion que nous, et en fait, ça fonctionnera pas. Donc j'ai le sentiment de moi me vendre et leur vendre le concept. Alors qu'en fait, j'ai évidemment aussi mon mot à dire, mais je pense que je me rends moins compte. J'ai quand même le sentiment que c'est exactement la même relation qu'avec le recrutement d'un salarié, mais en inversé. C'est-à-dire que je pense que le salarié ne se rend pas compte que l'employeur doit se vendre aussi, doit séduire. Ouais. Et le salarié pense être en situation d'infériorité et de se vendre lui uniquement. Et qu'avec le réseau de franchise, on a l'impression, nous, de nous vendre à fond, alors qu'en fait, ils doivent aussi se vendre. Enfin, j'ai un peu l'impression quand même que le rapport de force, voilà, les deux sont tout aussi importants. Mais moi, en tout cas, intellectuellement, j'arrive dans une démarche où je vends encore plus mon concept avec un candidat à la franchise qu'avec un salarié. Peut-être à tort, hein, mais...
Ouais, c'est, bon, je pense que ça c'est un autre sujet, mais le marché du travail a beaucoup évolué et maintenant les employeurs sont beaucoup plus dans la séduction qu'ils ne l'étaient. Mais il y a un truc que je trouve intéressant sur ce sujet des candidatures multiples, c'est quelle est la perception du franchiseur. Moi, je fais partie de ceux qui prennent un petit peu mal la multiple candidature, parce que je me dis le candidat il n'est pas à fond sur mon réseau. Au fond, il croit dans le concept. Mais je me dis, putain, il a pas encore compris qu'en fait c'était Quizroom quoi. Le mec, il est prêt à prendre quelqu'un d'autre. Il a pas compris que en fait c'était chez nous que ça se passait.
Moi, je suis dans l'opposé. Je les envoie chez les autres.
Ok.
Je leur dis, en fait, c'est un tel investissement, c'est tellement d'années, tellement de, qu'ils doivent être sûrs de leur choix. Et je veux pas qu'ils viennent chez moi sans s'être renseignés sur les autres. Je veux qu'ils, parce que en fait, sinon ils pourraient le regretter, ils pourraient me le reprocher. Et c'est très présomptueux de ma part. Mais en fait, je suis assez sûr de moi sur le fait que voilà, les autres réseaux n'aient pas mieux à proposer, je pense, en renta, en efficacité, en communication, en marque, en qualité produit, Donc je leur dis surtout, allez étudier, je leur donne les noms, hein, genre, allez les voir, renseignez-vous. À ce jour, à ma connaissance...
Il n'y en a pas qui sont allés chez les autres.
Il n'y en a pas qui sont allés chez les autres.
Et alors, c'est très intéressant ce que tu dis, et je pense que pour toi, c'est très sain de le faire, parce que tu te compares à des enseignes qui sont comparables, dans le sens où elles sont franchiseurs et qu'elles fournissent un accompagnement qui ressemble au tien. Moi, la raison pour laquelle, dans certains cas, soit je le prends mal, soit je considère que c'est un mauvais signal, c'est parce qu'on ne propose pas du tout la même chose en matière d'accompagnement et de contrat. Et donc, du coup, très souvent, nous, le choix se fait... Alors, il y en a évidemment qui préfèrent le concept parce qu'il peut être exécuté de telle ou telle façon. Mais entre deux enseignes que les candidats vont estimer concurrentes, nous, ce qui va faire la différence, c'est qu'il y a un franchiseur et il y a quelqu'un qui vend un logiciel. Et ceux qui veulent avoir un contrat de franchise, ils viennent chez nous et en fait, ils ne se renseignent pas chez les autres. C'est pour ça que, de temps en temps, j'ai juste... Enfin, c'est pas moi qui fais le recrutement, mais on a juste envie de dire... Bah en fait, si vous étiez bien renseigné sur le truc, a priori, vous ne nous auriez pas mis en face parce que ça n'a rien à voir.
Et est-ce que tous les deux pouvez témoigner sur ce que vous avez bien réussi en termes de recrutement et ce sur quoi vous auriez pu vous améliorer?
Ouais, moi, sur mes premiers recrutements, je pense que mon erreur, c'est d'avoir fait mes... Enfin, une erreur principale, c'est d'avoir fait mes rendez-vous dans une boutique pour leur montrer le concept. Et ça, je pense que j'ai perdu pas mal de candidats à ce moment-là. Un peu bêtement, parce que voilà, je pensais que c'était bien de leur montrer, de faire le rendez-vous dans une boutique pour leur montrer le concept, etc. En fait, à ce stade-là, je pense que c'était... Et d'ailleurs, maintenant, c'est comme ça que je fais. Je les fais venir au bureau. Je leur montre l'usine, parce qu'on est, producteur. On a une usine de 1 700 m² à Gennevilliers. Je leur montre l'entreprise. Et je leur explique en salle de réunion tout ce qu'on fait, pourquoi, comment, avec les nos valeurs, etc. Je leur montre l'équipe. Et en fait, c'est beaucoup plus rassurant pour un candidat à la franchise d'être dans un environnement de travail professionnel plutôt que d'être entre quatre murs de 20 m² dans une boutique à Paris. Ça, je pense que ça a été voilà, une de mes grosses erreurs au lancement du recrutement. Ça ne m'a pas empêché de recruter mon premier franchisé, Quentin, que j'ai reçu à Saint-Lazare, dans un café entre deux tables. On s'est quand même bien entendu, on s'est quand même mutuellement plu. Mais je suis sûr que j'aurais pu convertir plus de premiers candidats en gérant mieux ce premier rendez-vous.
Moi, j'ai plutôt parlé des choses qu'on a bien fait, du coup. Ouais, ça complétera. je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est d'être transparent. En fait, les franchisés, ça sert à rien de leur vendre du rêve sans raison, quoi. S'ils s'attendent à gagner 500 000 euros par an et qu'on n'est pas capable de leur offrir ça, bah, faut leur dire, en fait. Et en fait, c'est très apprécié. La transparence et le sentiment d'avoir quelqu'un d'honnête et de confiance en face de soi, c'est fondamental. Surtout quand on essaie de convaincre quelqu'un au départ, dans un réseau où il y a un ou deux ou trois franchisés, de son confiance, elle est clé. Et donc dire ça on sait faire, ça on sait pas faire. Voilà. Nous on a beaucoup de franchisés qui nous demandaient des quiz spéciaux. C'est voilà dans notre ville, je comprends, je suis en Bretagne, c'est très spécifique, ils nous font un quiz sur le truc. Et on leur disait bah écoute on va être honnête, aujourd'hui c'est pas dans notre plan en fait. On va pas le faire ton quiz sur telle ville. Voilà. Mais t'inquiète pas, on va faire des super choses à côté. On a une belle ambition sur le produit, notre vision c'est ça. Et tu vas t'y retrouver avec cette vision là. En revanche, ton quiz on va pas le faire. Alors que commercialement, tu pourrais dire ouais, bon, on verra. Voilà. Et ça, c'est très apprécié. Voilà, donc ça, je pense que c'est un truc qu'on a bien fait dès le début. Et l'autre truc, j'en ai déjà parlé rapidement, mais c'est refuser des profils qui sont très motivés, mais qui ne conviennent pas, en fait. De temps en temps, ils crèvent d'envie de le faire. Ils nous rappellent 15 fois, mais on leur dit non, désolé, en fait, on pense que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que les gens correspondent aux critères qu'on a? Est-ce qu'ils correspondent aux valeurs du réseau? Est-ce que leurs objectifs en se franchisant nous semblent être les bons? Parce que, ils sont pas mauvais ou bons dans l'absolu, ils sont différents pour chacun. Mais il faut que les moteurs quand même du candidat nous semblent alignés avec les nôtres. Et puis quand il y a alignement des planètes, très bien, et quand c'est pas le cas, tant pis. Il faut savoir le dire.
Finalement, tous les deux, vous avez appris un nouveau métier, celui de franchiseur, et vous avez créé une relation directe, privilégiée et personnalisée avec vos premiers franchisés. Vous avez pu les accompagner, les assister. Et justement, c'est l'avantage, quand on rejoint un jeune réseau, pour des franchisés, d'avoir cet accompagnement.
Ah ben ouais, c'est un accompagnement, et Tristan l'a dit, c'est presque une co-construction. Au début, alors nous, nos process étaient assez carrés avec nos boutiques, mais voilà, nos boutiques, on les livre partout en France en 24 heures en fonction de leurs commandes. Donc on leur livre des pâtes, du packaging, tout ce dont ils ont besoin au quotidien, jusqu'à la pile de la balance. Hein. On est capable de tout livrer dans nos boutiques. Mais on n'avait jamais considéré nos boutiques comme des clients. À juste titre, puisque c'était nous. Donc en fait, en cas de rupture de chocolat au lait ou de caramel beurre salé, bon, ben, forcément, le responsable de la boutique faisait un peu la gueule, mais finalement, c'était mon salarié, c'était mon argent. Bon, le point ne me remontait pas. Maintenant qu'on a des franchisés, si on ne les livre pas en chocolat au lait la veille d'un week-end, ou de... alors là, je peux dire que l'information, elle remonte tout de suite et que
ça
se passe un peu moins bien.
Ouais, et tu es responsable du fait qu'il n'y a pas de chocolat au lait. Exactement. Et qu'ils vont faire moins de ventes sur le week-end.
Ça fout les boules. Et donc, en fait, clairement... ils ont un accès, enfin là, mes deux premiers candidats ont un accès privilégié à moi. C'est très présomptueux de dire ça, mais c'est vrai. J'imagine que ton 41e franchisé a moins accès à toi. Mais tu nous le diras après. Moins d'accès direct. Là, il m'envoie un mail. Dès qu'il y a un truc qui se passe mal, il m'appelle, alors qu'un responsable boutique ne m'appelle pas. Donc ça, c'est top pour eux et ça permet d'avoir une super relation ensemble. Mais du coup, ils essuient aussi les pots cassés des petites erreurs qu'on peut faire. Et malgré notre expérience avec nos succursales, il s'avère que voilà, on est évidemment pas parfait. Il faut qu'on le devienne. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on s'améliore sur le taux de service de nos franchisés. Pour que ces premiers candidats, enfin pour ces premiers franchisés. N'essuie pas trop de plâtre et parce que financièrement il y a un impact, donc en fait financièrement concrètement c'est nous qui allons assumer le risque, hein. Enfin c'est nous qui allons les dédommager pour tout ça, mais donc voilà, c'est je pense que rejoindre un jeune réseau c'est hyper bien et forcément un peu casse-gueule au début, voilà, pour ces petites raisons logistiques pragmatiques très simples, quoi, mais...
Et vous êtes encore en phase de test.
Ouais, et pourtant, on a 12 ans d'expérience, quoi. Mais le simple fait de considérer nos boutiques comme des clients change tout. C'est des clients. Donc, il faut qu'on mesure le taux de service, ce qu'on n'avait jamais fait. C'est-à-dire qu'on avait des bons de commande et des bons de livraison, mais jusqu'à présent, on n'avait jamais comparé le bon de commande par rapport au bon de livraison. Et donc, calculer un taux de service. Eh ben là, ça y est, depuis quelques semaines, on le fait et on se rend compte que maintenant qu'on le regarde, il faut absolument qu'on améliore ce critère.
Nous, on n'a pas eu ces problématiques-là, mais on en a eu d'autres. Et c'est vrai que t'as beau bien gérer tes succursales, c'est pas la même chose que d'avoir des clients. Et il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est aussi le fait qu'au départ, t'es en direct avec le fondateur. Et donc ça, c'est quelque chose que valorisent les franchisés. Il y en a certains qui sont très contents d'avoir cette relation directe. Et au fur et à mesure, bah, cette relation elle évolue parce que forcément le réseau grandit et donc forcément l'équipe grandit, donc l'interlocuteur du quotidien n'est plus le même. Et ça, il y a certains franchisés qui ont un peu de mal à accepter, donc il faut les accompagner là-dedans, il faut leur expliquer que c'est normal, qu'aujourd'hui il y a d'autres bénéfices, mais c'est sûr que c'est pas simple parce qu'en fait au départ ils ont acheté les gens, au départ ils ont acheté le concept, mais ils ont un peu acheté les gens aussi. Ils ont acheté la personnalité, voilà. Et puis les franchisés du début, bah, c'est les franchisés du début. Donc à la convention annuelle, tu sens que ça, voilà, ils sont là depuis un certain temps, qu'ils connaissent. Et on leur doit une belle chandelle quand même. Enfin, c'est aussi un truc, nous, qu'on se rappelle souvent, c'est que les premiers, bah, ils nous ont fait confiance au début quand peu de gens nous auraient fait confiance. Donc ça aussi, il faut savoir le valoriser dans certains cas. Et il y a des situations du quotidien où il ne faut pas l'oublier, quoi.
Alors, pour le mot de la fin, quel conseil vous pourriez donner à un jeune réseau ?
Ah ben, clairement, moi, je trouve que ce qui a été essentiel dans mon lancement en franchise, c'est de me faire accompagner. J'ai décidé de ne pas recruter, parce que forcément, ça coûte très cher de recruter quelqu'un avec de l'expérience en franchise pour la commercialisation, pour la définition du concept et le recrutement des premiers franchisés. C'est hyper onéreux. Donc j'ai décidé de me faire accompagner par un cabinet de conseil, j'en ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Progressium. Ils connaissent le marché par cœur, ils conseillent surtout, un, la définition du concept même, sur le taux de redevance, le BP franchiseur-franchisé, est-ce que ça match, mais ils conseillent aussi sur la commercialisation, quels outils, comment, quel budget, pourquoi, où. Et après, ils sont capables d'aller loin, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire ce qu'ils font pour la fabrique cookie, c'est-à-dire le premier filtre, donc recevoir toutes les candidatures et filtrer pour nous, ce qui est quand même un temps précieux. Et après, une fois que moi, j'ai validé, ils sont capables d'accompagner le candidat à la franchise dans sa recherche de locaux, dans son financement, dans sa structuration juridique. Bref, en fait, c'est des pros qui accompagnent le franchiseur et le franchisé. Quand on est un jeune réseau et qu'on n'a pas les ressources internes disponibles pour faire tout ça, je pense que c'est essentiel de se faire accompagner. Voilà, petite pub pour Proessium, ils m'en doivent une.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'analyse inverse.
Ah bon?
Donc, ouais,
mais non.
Nous, on n'a jamais été accompagné par qui que ce soit. Et je suis persuadé que c'était
toi,
le bon choix.
Du ciel.
Non, nous, alors nous, au début, on a recruté un profil qui faisait le recrutement, mais qui faisait aussi d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a un peu dilué notre risque sur ce recrutement en lui faisant faire tout un tas de choses, puisqu'on était encore tout petit, donc on était tous polyvalents. Au début, je l'ai fait moi-même, parce que je pense que c'était important d'incarner le truc. Et puis assez vite, on a recruté en interne. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, quand on a envisagé, parce que le nombre de demandes augmentait, d'externaliser, on a fait un ou deux tests. Et pour le coup, nous, ça n'a pas été concluant. Notre conclusion, c'était que, en fait, il n'y a personne de meilleur que quelqu'un dans une boîte pour vendre son projet, parce qu'en fait, il le vit toute la journée. Il connaît les process, il connaît les équipes. Donc l'externaliser, ça peut très bien marcher, et t'en es la preuve, et je connais plein de réseaux qui conseillent Progressium ou d'autres sans aucun problème. Je dis pas que notre expérience est la seule bonne, mais voilà, nous on vit le truc, on connaît bien le concept, et dans certains cas, les consultants externalisés, ils peuvent connaître quand même moins bien le concept.
Ça c'est clair, je suis d'accord avec toi.
Voilà,
c'est clair. Et d'ailleurs, même avec tout le respect que j'ai pour mon super consultant, hein. Oui, parfois il dit des conneries, c'est clair. Et du coup, mais je rectifie le tir lors du deuxième rendez-vous, en fait. Mais je suis d'accord avec toi, personne ne connaît mieux le concept que quelqu'un de la boîte.
Voilà, donc bon, tout ça pour dire que finalement, chacun fait un peu comme il veut.
Oui, non, mais c'était un conseil. Ouais, après, ouais. Les gens sont.
Ah oui, non, mais bien sûr, c'est très bien.
Ils en font bien ce qu'ils veulent.
Ouais, c'est clair. Non, je trouve ça très bien qu'on puisse dire que en fait les deux modèles fonctionnent. Et après, moi je l'ai déjà dit, c'est être capable de refuser quand on le sent pas. Pas baisser les prix, parce que la tentation est grande au début de se dire allez, je vais prendre mes premiers franchisés, et puis ils vont me négocier l'air de vente, ils vont me négocier les droits d'entrée, ils vont me négocier plein de trucs. Et allez, il faut quand même que j'ouvre des centres, alors je vais accepter. Non, jamais, parce qu'en fait, nos prestations ont une valeur qu'on fixe au départ. Et quand on baisse le prix, on dégrade la valeur perçue de la prestation. Donc je pense que c'est une erreur. Et ça, faut pas le faire. Il vaut mieux perdre 2-3 franchisés et garder sa ligne conductrice. En plus, par la suite, ça reste beaucoup plus simple à gérer dans le réseau, puisque ça évite qu'il y ait des jaloux. Quand ils en parlent, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les mêmes conditions. Donc nous, tout le monde a les mêmes conditions, donc ça se passe très bien. Et genre un micro-conseil, peut-être, c'est très juridique, mais je pense que c'est très important d'avoir une reconduction express du contrat. Donc refuser que les gens négocient en reconduction tacite, ça c'est un des conseils les plus précieux que nous a donné notre avocat, que je vais citer, François Luc Simon, avec qui on s'entend très bien. Pourquoi ? Parce que ça permet de maîtriser son réseau, et si les franchisés peuvent reconduire s'ils le souhaitent, ça veut dire que si ça se passe pas bien, on n'a pas la main. Et ça veut aussi dire que si le concept évolue, on n'est pas forcément en mesure d'imposer aux franchisés, quand il reconduit, de faire ses travaux ou de changer fondamentalement les choses. Donc nous, voilà, ce qu'on dit, c'est qu'on a des contrats qui sont en reconduction express. Et ça permet au réseau de rester homogène, puisque le jour où vous reconduisez le contrat, vous devez vous mettre à jour du concept. Voilà, c'est une obligation. Et par ailleurs, si ça se passe pas bien, on a la possibilité de ne pas reconduire.
Alexis, Tristan, un grand merci à tous les deux d'avoir témoigné sur la problématique du recrutement des premiers franchisés avec nous aujourd'hui.
Tout simplement.
Merci, merci beaucoup.
C'était un plaisir. Merci à tous les deux.
Merci à tous les deux. Merci d'avoir écouté En Coulisses. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou souhaitez partager votre expérience, écrivez-nous ou laissez un commentaire sur nos réseaux sociaux. D'ici là, continuez à explorer et à puiser votre inspiration sur le site de l'Observatoire de la Franchise. À bientôt !